Grain de sel,
l'émission de la rédaction.
Grain de sel.
Bonjour Frédéric, aujourd'hui je suis sur Compiègne. Et pourquoi je viens à Compiègne, c'est pour rencontrer Nathalie Dénin. Bonjour Nathalie.
Bonjour Frédéric.
Donc Nathalie, elle me reçoit chez elle, tranquillement.
Parce que c'est royal.
Voilà, c'est ça, on peut dire que c'est la ville royale et on y est justement. Et on se rencontre parce qu'on va parler d'un livre, c'est ça?
Oui.
Qui vient de sortir, que vous avez édité Nathalie. Tout d'abord, est-ce qu'on peut revenir sur votre parcours, Nathalie? Parce que c'est, apparemment c'est le 10e livre, c'est ça?
Oui, c'est ça.
Donc
oui.
En 10 ans, 10 livres. Donc c'est régulier, hein?
Oui. Pour le moment, oui.
Racontez-nous comment ça s'est passé, alors, cette aventure. Pourquoi avoir écrit comme ça? Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire?
En fait, j'ai au départ été artiste-peintre. D'ailleurs, on s'est déjà rencontrés pour ça. Et puis, entre-temps, je me suis aussi mise à l'écriture et surtout dans la poésie libre. Et puis, j'ai commencé ensuite à connaître le haïku et le tanka, qui sont des courts poèmes d'origine japonaise. Et c'est l'association Les Adex qui m'a édité le premier livre qui est Trio en 2010 et qui est un livre de haïku qui se déplie un peu comme un paravent. Donc c'est assez agréable aussi, c'est un beau livre qu'on peut poser aussi debout et qui se tient comme un paravent. Et puis j'ai continué à écrire, à participer aussi à des revues. À participer à des concours. Et puis les premiers livres, ensuite, après Trio, sont apparus. Il y a eu notamment Frontières, aux éditions Stella Maris, Tissage, dans une maison d'édition de Bordeaux. Et puis j'ai continué, comme ça, avec les haïkus. Et il y a eu Autour d'un parc, qui est un livre de haïkus aux éditions Unicité, qui relève de tous mes périples, de toutes mes promenades dans le parc du château de Compiègne. Donc tous les haïkus écrits, qui sont des courts poèmes d'origine japonaise francophone, donc écrits en français de trois vers, sont écrits d'après toutes mes observations que j'ai pu faire sur quelques années dans le parc du château de Compiègne.
Donc, c'est ça qui a donné envie d'écrire? C'est d'abord le château de Compiègne qui a été un déclencheur? Vous avez ça déjà dans vous?
Non, l'envie d'écrire, elle a toujours été là. Après, j'ai l'habitude de dire que quels que soient les outils qu'on utilise en tant qu'artiste, que ce soit la peinture, l'écriture, la musique, le théâtre ou autre, l'inspiration est la même. C'est le sens de l'observation, ce qu'on entend. Et puis dans l'écriture, ce qui est formidable, c'est bien sûr d'utiliser, de jouer avec les mots. Mais une feuille, un carnet, un stylo, ça se trimballe partout.
C'est vrai.
Une toile et de la peinture, un peu moins. Donc il y a tout ce qui relève de la découverte des autres manières d'écrire. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup apprécié le haïku et le tanka, les courts poèmes d'origine japonaise. Il y a eu ensuite un autre livre de haïku, toujours aux éditions Unicité, qui s'appelle « Autour de nous », qui sont des haïkus plutôt sur la vie intime, la vie intérieure. Et à chaque fois, les livres sont accompagnés de mes illustrations, en tant qu'illustratrice. J'ai ensuite édité « Bestiaire Tanka » en 2017, aux éditions du Tanka francophone. Le Tanka étant un poème un peu plus long que le haïku, et contrairement à ce que l'on pense, en fait, c'est l'ancêtre du haïku. Le Tanka fait 5 vers, et c'est ensuite, il y a quelques siècles, que le haïku s'en est inspiré et est devenu un court poème en 3 vers. Et puis en 2018, Bestiaire Tanka, qui est aussi agrémenté de mes illustrations en mandala, a reçu le prix Saint-Quentin en Yvelines des collégiens. Ils l'ont primé, je pense, de par son originalité. Bestiaire Tanka, comme son nom l'indique, utilise beaucoup l'observation sur les animaux, qu'ils soient connu ou beaucoup plus exotique, donc c'est un agréable rappel. Et puis le tanka permet aussi, beaucoup plus que le haïku, un développement sur des notions plus personnelles, presque sentimentales, et je trouvais que ça se prêtait bien à ce thème-là. Et puis finalement, je me suis dit, bon, la poésie libre, permet beaucoup de choses, elle permet même d'inventer des mots. C'est quand même formidable d'avoir ce droit-là, cette liberté-là. Le tanka, le haïku sont aussi de formidables exercices d'écriture parce qu'ils sont bourrés de contraintes et la grandeur du haïku, c'est de rendre très simple l'accumulation de toutes ces contraintes et de pouvoir lire un court texte de manière très fluide. J'ai eu quand même envie de continuer d'explorer d'autres écritures et en 2019 est paru cette fois-ci un livre, un recueil de nouvelles qui s'appelle Les Éloignés, qui contient trois nouvelles sur le thème de la disparition, qu'elle soit réelle ou symbolique. Alors, bien sûr, là, on est dans une écriture beaucoup plus longue que la poésie libre, qu'un haïku, qu'un tanka. Bien que dans la première nouvelle, j'ai pas pu résister, j'ai quand même inséré une courte histoire sur un atelier d'écriture de tanka. Voilà, je n'ai pas pu résister. Et puis, donc, ces nouvelles-là ont été très denses pour moi dans leur écriture, parce que déjà, c'est un thème qui a une forte résonance pour chacun d'entre nous. Et j'ai vraiment accueilli avec beaucoup de joie la réponse très positive des éditions Stella Maris qui l'a publiée en 2019, alors que c'est un thème assez délicat. Et les retours que j'en ai eus correspondent bien à ce que je souhaitais émettre avec cette écriture, c'est-à-dire qu'il se passe quelque chose dans l'esprit du lecteur, que ce soit pas une lecture qui passe, ce soit plutôt une lecture qui interroge, qui pose des questions. Et en ce sens, j'ai trouvé que cette parution aux éditions Stella Maris était assez réussie. Le hasard ensuite fait que, comme je connais pas mal d'artistes de la région et autres, j'ai revu donc un artiste qui s'appelle Jean-Luc Van Kerschever lors d'un salon de la poésie dans l'Oise. Et je connaissais déjà ses peintures, qui sont quand même très singulières, parce qu'il utilise un univers poétique, un imaginaire très fort, très riche, mais je dirais qu'il n'appartient qu'à lui. Tout ce qu'il peint ne ressemble à rien d'autre. Il y a du figuratif, mais qui tend quand même vers une forme poétique un peu plus abstraite. Il y a des couleurs qui sont très riches, qui sont aussi nuancées. Et puis il m'a demandé, lorsqu'on s'est rencontrés, il m'a dit, tiens, est-ce qu'on pourrait faire quelque chose ensemble, moi les peintures et toi l'écriture? Sauf que, lorsqu'il m'a présenté des premières illustrations, j'ai commencé à ébaucher plutôt de la prose et ça n'a pas fonctionné. C'était d'autres tableaux que ceux qui sont présents dans ce livre Pantoune et peinture. Et j'arrivais pas à accrocher, j'arrivais pas à trouver la bonne formule, et voilà, ça le faisait pas.
Il fallait un petit temps de maturation, alors c'est ça?
En fait, il m'a proposé d'autres peintures. Et là, il s'est passé vraiment une symbiose assez forte entre ce que j'ai découvert de ces peintures-là, qui sont au départ un triptyque. Donc, ce sont trois panneaux, et à l'intérieur de ces panneaux, de chaque panneau, il y a ce que j'appelle des scénettes. C'est-à-dire, alors c'est pas une bande dessinée, bien sûr, mais ça se lit un peu comme on veut, de gauche à droite, il n'y a pas vraiment de sens, il y a des espèces de grilles, de carrés qui s'interposent les uns les autres, et parfois il y a des petits morceaux d'une scénette qui se terminent dans l'autre. C'est chaque tableau du triptyque est composé de plein de petits tableaux. Et là, j'ai trouvé ça très ludique, très atypique aussi, et ça m'a beaucoup plus inspirée. Et je me suis dit, pourquoi pas écrire des pantounes?
Alors, c'est quoi des pantounes? Il faut qu'on nous explique aux auditeurs quand même.
Alors, le pantoun est un court poème, encore un autre, mais qui n'est pas japonais, qui est malaisien.
D'accord.
Donc, il nous vient de la Malaisie. Il est sur une forme courte également de quatre vers. Alors, il présente quand même des similitudes avec le haïku et le tanka, puisque c'est un court poème, qu'il a la même subtilité, la même fluidité. Par contre, il présente quand même quelque chose qui est très différent du court poème japonais, c'est que le pantoun aime beaucoup les rimes, et surtout les rimes croisées. Alors, le troisième vers doit répondre symboliquement au premier vers qui, lui, doit être bien concret. Il doit y répondre aussi dans la rime. Le quatrième vers doit aussi répondre dans sa rime et dans sa symbolique au deuxième vers. Alors, les deux premiers vers sont plutôt la description d'une scène, d'une sensation. Et les deux derniers vers, donc le troisième et le quatrième, utilisent ce qui est dit dans les deux premiers vers, mais pour délivrer plutôt un message ou plutôt développer un univers plus symbolique. Donc, c'est en ça qu'il est assez différent du poème japonais. Et pourtant, dans sa forme courte, il est aussi très riche en images, puisque très vite, en quelques vers, il faut qu'on arrive à développer tout un univers, tout ce qui s'y rapporte. Et j'ai trouvé que le pantoun allait assez bien avec ce que Jean-Luc développait. Il demande d'être efficace, d'aller à l'essentiel, tout en étant sur un exercice d'équilibriste, puisque en même temps, je ne voulais pas que le pantoun décrive trop la peinture. Alors, comment faire? C'est moi, en fait, qui me suis inspirée des peintures. J'ai écrit d'après
Donc,
les
vous avez
peintures.
Pu voir les peintures avant d'écrire. Voilà, c'est important. Il avait fait son travail avant, lui.
Oui,
hein.
Oui.
D'accord.
Oui. Et puis, lorsque je me suis inspirée des scénettes, je ne les ai pas prises dans un ordre précis. J'allais vers ce qui m'inspirait le plus. Et j'essayais de repérer un détail ou une sensation. Et à partir de là, j'ai pris ce détail pour le développer après. Et l'idée, c'est qu'on peut ouvrir le livre en regardant à la page droite à chaque fois l'une des scénettes. Et à gauche, le pantoun se lit de manière indistincte. On peut ouvrir le livre à n'importe quel endroit et puis découvrir l'image par la peinture et le pantoun, comme on peut aussi lire le pantoun, ne pas regarder l'image. En fait, ça se lit avec beaucoup de liberté. Et à la fin du livre, j'ai demandé à l'éditeur, donc François Mocaer des éditions Unicité, de rajouter le fameux triptyque. Et il est indiqué, les illustrations de ce recueil sont issues du triptyque de l'artiste peintre Jean-Luc Van Kerschever, présenté dans les pages suivantes. Et là, on y voit cette fois-ci les trois panneaux du triptyque dans leur ensemble.
Est-ce qu'on peut avoir un petit extrait de pantoun? C'est possible?
Alors, vous ne voyez pas l'image. Alors, je vous la décris
oui.
Un petit peu. Il y a sur le format carré un lapin bleu qui a le museau levé vers le ciel. Voici le pantoun. Il sort du monde souterrain, le lapin de la pleine lune. Il se fend alors d'un teint azurin, de sa patte prêche la bonne fortune. Très différent, un autre tableau représente sur un triangle rouge un caméléon. Du haut de la pyramide rouge à face lisse, un caméléon savoure la victoire de son ascension. Mais le soleil brûlant du zénith devient un supplice. Alors il se prend pour Icare et vole tel un papillon. Alors dans le livre, dans le livre Pantoun et peinture que Jean-Luc a illustré, il y a effectivement beaucoup d'animaux, mais je dirais plus des animaux chimériques, puisque même si on reconnaît la forme d'un poisson, il a quand même des détails qui nous font dire qu'un poisson comme ça, on n'en a pas vu.
Non, on n'en a pas, on n'en croise pas souvent.
Il y a quelques personnages, mais de la même manière, qui sont plutôt statufiés, je dirais. Il y a aussi des personnages qui n'ont aucun détail, qui se retrouvent sur le dos d'un violoncelle. Tout est quand même très imagé aussi, très poétique. L'univers de Jean-Luc utilise beaucoup l'univers marin, imaginaire, très poétique. Et puis, il a surtout une capacité de dessin qui est telle que chacun peut aussi en faire sa propre interprétation.
Et là, je vois que la préface est faite par Georges Voisset, directeur de publication de Pantoune et Genre Bref. Donc, c'est quelqu'un qui connaît très bien le sujet. Alors.
Georges Voisset est universitaire et effectivement, c'est lui qui a développé il y a quelques années la diffusion du Pantoune malaisien en France. Il a eu la grande gentillesse et pour moi un grand honneur d'en faire la préface. Donc il parle beaucoup des images qui sont véhiculées par le travail de Jean-Luc, que j'ai reprises également dans l'écriture. Et puis il trace un petit peu aussi ce qu'est le Pantoune. J'ai trouvé ça vraiment intéressant comme préface pour le lecteur, de pouvoir entrer un peu mieux dans cet univers-là.
Eh bien, bravo, c'est une belle référence pour vous, ça.
Tout à fait.
Et comment est venu l'amour de la Malaisie, de l'Asie, comme ça? Parce qu'apparemment, c'est un univers qui vous convient beaucoup, alors.
Oui, au départ, je connaissais déjà un peu la philosophie asiatique. Et puis, je suis rentrée dans l'univers du haïku en allant assister à un atelier d'écriture dans une épicerie sociale, où j'ai découvert la facilité avec laquelle chacun peut s'approprier le haïku, même si après il faut beaucoup d'années de pratique pour le peaufiner. Tout à fait par hasard, j'ai été approchée par Jérôme Bouchot, qui m'a fait connaître le monde du Pantoune. Donc j'ai beaucoup participé aux revues du Pantoune francophone, en ayant eu également quelques prix. Et puis c'est par cette rencontre avec Jean-Luc qu'est venue l'idée d'écrire ce livre. Et actuellement, j'écris un deuxième livre de Pantoune, sans binôme. Cette fois-ci, ça sera des Pantounes seuls, sur le monde du végétal. Et il y aura à peu près 70 Pantounes. Et ça, c'est pour 2021.
Nathalie, comment vous êtes distribuée? Comment on peut retrouver votre travail?
Il y a sur Instagram une page publique. Tout le monde peut ainsi, sur Internet, aller la consulter sans être inscrit sur Instagram. Il suffit de noter dans le moteur de recherche d'Instagram Nathalie Denain écrivain. Chaque livre y est présenté avec le nom de l'éditeur et à chaque fois, par exemple, les éditions Unicité ont un site Internet, tout comme les éditions du Tanka francophone. Chaque éditeur a son site et dans ce cas-là, on peut commander le livre directement sur Internet.
Nathalie, pouvez-vous nous préciser quelle est votre activité, s'il vous plaît? À part l'écriture, bien sûr.
J'ai longtemps travaillé dans l'accompagnement à l'autre, dans le social. Et puis, en ce moment, depuis quelques années également, je suis animatrice d'ateliers d'écriture, que ce soit auprès de nos aînés, auprès des écoles également, auprès de publics qui souhaitent aussi se mettre à l'écriture sans qu'il y ait de thématique. Ça peut être aussi bien un travail sur l'essence, comme je le fais d'ailleurs actuellement sur Compiègne. Et les ateliers d'écriture, souvent, sont accompagnés à la fin d'un recueil qui est édité également.
Très bien. Bah, merci Nathalie de votre accueil. Donc moi, je suis à Compiègne chez Nathalie. Comme ça, je profite de son univers. Hein. Et puis, bah, vous, écoutez, cet été, comme on va peut-être moins partir en vacances que d'habitude, bah, c'est le moment de lire.
Ça, c'est quand même la grâce de 2020, d'avoir pu redécouvrir l'intérêt, l'utilité de la culture et à quel point on en a tous besoin.
Voilà, c'est une belle conclusion. Donc je répète, j'étais chez Nathalie Denain, qui vient de sortir avec, on peut dire en binôme, avec Jean-Luc Van Kerschaver. Donc Jean-Luc Van Kerschaver qui est peintre et Nathalie Denain qui a écrit des pantounes. Donc ça s'appelle Pantoune et peinture. Allez, je vous dis à bientôt sur RVM 93.7. Bonne écoute, au revoir.
Au revoir.
Grain de sel. L'émission de la rédaction. Grain de sel.